franceinter.fr.
Le journal. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous. Les prisons sous tension, nouvelle agression de gardien à Borgo en Corse, 2 surveillants blessés, 4 détenus en garde à vue. La garde des Sceaux Nicole Belloubet est sur place, les négociations suspendues, parole de Maton dans cette édition. Au sommaire également ce soir, Jacques Toubon qui demande le retrait de la circulaire Collomb, des vœux et de gros moyens pour les armées, le soutien de Donald Trump aux anti-avortements, nous serons à Washington, le nouvel album des Liminianas, et puis le temps du week-end, de la pluie, de la neige, du vent partout. Le mouvement de colère des gardiens de prison dure depuis maintenant 5 jours et les agressions se poursuivent dans les cellules et les coursives, comme pour leur donner raison dans le bras de fer qui les oppose à leur hiérarchie. Dernière agression en date donc ce matin à la maison d'arrêt de Borgo en Corse. 4 détenus ont blessé 2 surveillants, l'un d'eux touché à la gorge par un coup de couteau. L'un des détenus est suivi pour radicalisation. Tous les 4 sont en garde à vue et une enquête est ouverte pour tentative d'homicide. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est sur place, Didier Arnoux. Elle est allée voir les surveillant blessé à l'hôpital de Bastia avant une rencontre avec les gardiens à la prison de Borgo.
Nicole Belloubet a été accueillie à la prison de Borgo par des surveillants lui tournant le dos. L'image est forte, les représentants des personnels disaient ne rien attendre d'une ministre déconnectée de l'univers carcéral. Sitôt pris la décision de venir en Corse pour apporter un soutien moral aux surveillants agressés, la garde des Sceaux avait proposé une réunion avec les syndicats, mais en préfecture, sur terrain neutre. Une proposition refusé. Ce sera Borgo ou rien. Résultat, Nicole Belloubet a dû subir un accueil viril de la part de surveillants choqués par l'agression violente subie par 2 collègues. Avant de se rendre à Borgo, la ministre avait tenu à rencontrer les 2 personnels justement aux urgences de l'hôpital de Bastia. 20 minutes marquantes.
C'est choquant, oui, bien sûr c'est choquant. Quand on voit les 2 personnes qui sont là, qui sont moralement très atteintes, cela veut dire que nous devons être vraiment très présents à leur côté.
Solidaires de leurs collègues blessés, les surveillants de la prison de Borgo ont rendu les clés de l'établissement. Du coup, les gendarmes et les CRS ont dû assurer la distribution des repas et la surveillance des prisonniers. En attendant l'arrivée d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, l'ERIS de Marseille, dont la mission est justement le traitement des situations tendues dans les prisons. Bastia, Didier Arnoux, France Bleu, RCFM pour France Inter.
Des incidents ont aussi eu lieu ce matin devant la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne, la plus grande d'Europe. Plus de 4300 détenus. 150 gardiens ont affronté les gendarmes mobiles alors que les négociations reprenaient entre les syndicats et l'administration pénitentiaire et que 80 prisons sont touchées par des blocages. Bonsoir Solène Cressant.
Bonsoir.
Des gardiens qui racontent leurs conditions de travail.
Thibaut Capel est surveillant depuis plus de 10 ans à Fleury-Mérogis, responsable syndical à la force ouvrière. Il a déjà subi des violences.
Oui. J'en ai subi, j'en ai vu, qu'elles soient physiques ou même psychologiques. Hein. Tout ça, vous le voyez au travers des insultes, des menaces. J'ai assisté à des prises d'otages. C'est un milieu particulièrement violent.
Et le gardien de prison alerte bien sur les séquelles psychologiques après une agression.
Vous savez, il suffit juste de prendre la clé en main et ça vous ramène à l'agression précédente ou quand vous avez ouvert la porte, le mec il vous a sauté dessus. Quand un collègue va avoir un blocage tout simplement en plein milieu de sa coursive qui va plus savoir faire son métier parce que psychologiquement il va avoir des retours, il va avoir des flashs, c'est totalement inimaginable mais c'est notre réalité.
Il existe bien des psychologues au sein de Fleury-Mérogis mais ils sont 2 ou 3 pour 1300 gardiens, déplore Thibaut Capel. Lors des derniers concours d'entrée pour devenir surveillant pénitentiaire, les syndicats affirment que 70% des inscrits ne se sont pas présentés. Pourtant, Thibault est fier de son métier.
On a un dicton dans la pénitentiaire qui dit qu'on ne rentre jamais avec des convictions, mais par contre, c'est un métier qu'on apprend à aimer.
À Fleury-Mérogis, il n'est pas rare qu'un gardien soit obligé, faute d'effectifs, de surveiller 180 détenus à lui tout seul. Si on nous donnait les moyens de rester, on resterait, martèle le gardien.
Solène Cressant, merci. L'administration pénitentiaire recense environ 4000 agressions par an, de la simple gifle au coup de ciseau. Et il n'y en a pas plus en ce mois de janvier, nous dit-on, ou depuis cette semaine. Environ 70 000 personnes sont en cellule aujourd'hui en France, qui vient d'être épinglée, la France, par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour améliorer sa gestion des prisons, où la surpopulation, on le sait, est chronique.
Le défenseur des droits est sur la même ligne que les associations.
Oui, Jacques Toubon demande le retrait de la circulaire Collomb sur les migrants qui organisent leur recensement dans les hébergements d'urgence.
Elle consiste à aller contrôler la situation administrative, c'est-à-dire en particulier la régularité du séjour, dans les centres d'hébergement d'urgence qui relèvent du Code de la Sécurité sociale et de la famille. Donc de ce point de vue, nous considérons qu'il y a une infraction à un texte très très clair qui pose le principe de l'accueil inconditionnel. Ce n'est pas la vocation de l'Office français de l'immigration de faire de tels contrôles. Il n'a pas de compétences pour agir dans le dispositif d'hébergement d'urgence. Et de plus, d'après la circulaire, il le ferait sans autorisation et sans contrôle juridictionnel, ce qui est de nature à en amoindrir encore la légalité. Et enfin, d'autre part, les données qui vont être recueillies sont de caractère confidentiel. Elles sont susceptibles, à notre avis, de tomber sous le coup de la loi informatique et liberté. Nous pensons que ce dispositif comporte trop d'infractions avec nos principes fondamentaux pour qu'il soit maintenu.
Jacques Toubon avec Éric Valmire, il donne 2 mois au gouvernement pour se prononcer sur ce retrait. Emmanuel Macron a annoncé ce matin lors de ses vœux aux armées qu'une frégate française avait secouru 100 de migrants en danger de mort mardi au large de la Libye. C'est sur un autre navire, le Dixmude, en rade de Toulon, que le président est venu rassurer les armées. En juillet, il disait aux militaires « Je suis votre chef » et le chef d'état-major démissionnait. 6 mois plus tard, changement de ton, Nathalie Hernandez. Emmanuel Macron parle de la fierté de la France et il promet un effort budgétaire inédit et incomparable.
Aux armées, la nation reconnaissante, a rappelé le président de la République avec solennité, d'où la nécessité de mettre les moyens. Emmanuel Macron réitère son engagement de hausse budgétaire, inédite après des années de contraintes. Mais attention, chaque dépense sera évaluée à la loupe.
J'assume devant la nation mes choix de vous donner ces budgets. Mais vous ne devez pas ignorer qu'ils traduiront une réduction des ressources accordées à d'autres politiques publiques. Je vous donne donc des moyens, mais en même temps, ce sera pour vous plus de responsabilités.
La dissuasion nucléaire, les équipements blindés et patrouilleurs en particulier seront renouvelés, les moyens du renseignement seront renforcés. J'écoute ce qu'on me dit, a déclaré le président de la République, qui a également fait des entraînements. Une priorité reste l'état d'esprit, semble-t-il apaisé 6 mois après le départ du général de Villiers. N'ayez pas peur, le logiciel de la méfiance appartient au passé, assure Emmanuel Macron. Place désormais à la confiance. À Toulon, Hélène Langlois, Nathalie Hernandez, France Inter.
Des moyens pour les armées, du ménage dans l'éducation nationale. Cela fait 2 ans que les casiers judiciaires du million d'agents sont passés au peigne fin pour détecter ceux dont les antécédents sont incompatibles avec le travail auprès des enfants. Bilan de ce contrôle, 26 radiations. Des fonctionnaires condamnés pour atteinte sexuelle sur mineurs, violence ou détention d'images pédopornographiques. Un vaste examen salué par Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat enseignant SE-UNSA, au micro de Solène Lehen.
26 personnes sur 1 million, voilà, statistiquement, c'est assez peu. Mais ce sont donc 26 situations potentiellement à risque pour l'école qui sont aujourd'hui évacuées. C'est surtout une bonne chose que le ministère ait fait ce travail exhaustif sur l'ensemble de son million de personnel pour aller à la recherche de toutes les situations qui n'avaient pas été identifiées parce qu'elles s'étaient passées ailleurs qu'à l'école, et aujourd'hui pouvoir dire que toutes les mesures ont été prises, même si le risque zéro n'existe pas.
Ce sera l'un des sujets des états généraux de la bioéthique qui ont débuté hier, la GPA, la gestation pour autrui. Plusieurs personnalités s'y opposent dans une tribune au Monde, dont le professeur René Friedman, le père du premier bébé éprouvette, la philosophe Sylvia Nagasinski ou l'ancienne ministre des droits des femmes, Yvette Roudy. Elles disent non au marché de la personne humaine que représente, selon elles, le recours aux mères porteuses, pratique interdite en France et à laquelle Emmanuel Macron n'est pas favorable.
Une opération spectaculaire cette semaine à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
Un homme vient de changer de visage pour la 2e fois. Il avait déjà été greffé il y a quelques années. Il a dû recevoir une 2e greffe totale à cause d'un rejet. Une opération qui montre qu'une retransplantation est possible, mais il faut rester prudent, comme le reconnaît le professeur Laurent Lantieri qui a dirigé l'équipe. Il est au téléphone avec Daniel Messager.
Comme pour toute greffe, on savait qu'il y avait potentiellement le risque d'un rejet chronique. Et il présentait depuis 1 an une destruction progressive de son greffon malgré un traitement particulièrement bien suivi. Et fin du mois de novembre, le greffon était tellement détruit que j'étais obligé d'enlever toute la face, l'ensemble de la face. C'est la première fois qu'on regreffe et c'est probablement là que c'est intéressant. Nous posions des questions sur l'avenir de ces greffes. Un certain nombre de ces greffons vont présenter des rejets chroniques. La question qui se posait, est-ce qu'il est possible de regreffer quelqu'un qui a eu une greffe de face ? Si ça n'était pas possible, il ne paraissait pas raisonnable de continuer les greffes de face tout court. Et là, nous avons pu montrer que c'est possible. Techniquement, c'est possible. Le patient voit aussi bien qu'on peut aller après une intervention aussi importante. Il est conscient, il est réveillé et les suites immédiates sont tout à fait satisfaisantes.
Luc Carvounas veut un vote électronique pour l'élection à la tête du PS. Le député du Val-de-Marne s'inquiète dans une lettre au parti de la surcharge de travail dans les fédérations. Le scrutin est prévu le 29 mars et à 10 jours de la clôture des candidatures. C'est Olivier Faure qui semble le mieux placé. Le patron des députés socialistes engrange les soutiens. Et pour sa première visite de terrain aujourd'hui à Toulouse, il a pu mesurer sa relative popularité auprès des militants, Stéphanie Glézis.
Le candidat Olivier Faure a discuté avec des militants assommés par les derniers résultats électoraux. Aude souligne le traumatisme de ces militants.
On a vraiment été très secoués par des résultats catastrophiques, une aura qui s'est délitée, un dysfonctionnement cruel. On a été aspirés, ça a été une vraie chute et une vraie douleur. Ce qui importe, c'est de construire le quoi et de savoir qui va porter le travail qui a été fourni, qui était effectif et qui était profond.
Karine Traval-Michelet, la maire PS de Colomiers, près de Toulouse, résume bien la préoccupation principale.
C'est qu'il arrive à tous nous rassembler et qu'on sorte dans cette période de ces chicayas internes qui nous détruisent et qu'on retrouve notre corpus idéologique.
Olivier Faure l'a répété, il veut ouvrir le PS aux experts sans oublier les militants, mais pas question pour autant d'un consensus mou.
Je ne regarderai pas d'où viennent les gens. Ras-le-bol de cette histoire des Fabusiens, Rocardiens, Aubrys, Valsistes, etc. Il faut passer à autre chose. Et en même temps, converger sur des idées qui peuvent être des idées nouvelles et qui peuvent nous permettre de retrouver les Français.
Olivier Faure a aussi prévenu les dissidents tentés par Emmanuel Macron ou de petites boutiques concurrentes du PS comme Benoît Hamon devront choisir. Après le 8 avril, date du congrès, il n'y aura plus que des socialistes sans plan B ou C, sûrs et fiers de ce que nous sommes, a-t-il conclu. Toulouse, Stéphanie Glézis, France Inter.
Quant à Delphine Bateau, elle assigne le PS en référé. La députée des Deux-Sèvres dénonce un coup d'État statutaire. Une obligation de parrainage qui sera adoptée à la fin du mois et qui, dit-elle, l'empêche d'être candidate. Quelques annonces, mais encore beaucoup de questions sur l'avenir de Fessenheim. Le secrétaire d'État Sébastien Lecornu a lancé le comité de pilotage aujourd'hui, qui doit décider de l'avenir de la plus vieille des centrales nucléaires du pays et surtout de celui des 1600 emplois concernés. Célia Kiré.
Sébastien Lecornu n'est pas venu avec un chèque, mais plutôt des engagements pour les salariés d'abord, et notamment les 330 employés en sous-traitance. Un travail au cas par cas sera mené dès lundi à la préfecture et la solution dépasse même les frontières.
Cette réponse pour les prestataires sous-traitants sera franco-allemande, puisque les entreprises allemandes de l'autre côté du Rhin sont en peine à trouver un certain nombre de profils, de qualifications, d'employés.
Et pour réellement tourner cette page industrielle en Alsace, le secrétaire d'État tient tout de suite à se démarquer de l'ancienne ministre Ségolène Royal, qui avait évoqué l'arrivée d'une usine Tesla. Ce projet n'avait pas abouti.
Il ne faut pas compter sur moi pour annoncer l'arrivée d'une usine. Le développement économique n'est pas quelque chose qui se décrète.
Le gouvernement lance donc un appel à projet régional pour développer les énergies renouvelables. C'est la priorité. Le président LR de la région Grand Est, Jean Rottner, y croit.
Là, on est sur un appel à projet sur un territoire extrêmement restreint. C'est la première fois que ça va se faire en France. J'y appellerai même éventuellement une fiscalité particulière. Pour nous, c'est vraiment de développer toutes les énergies nouvelles. Je pense que ça va se faire en un peu plus d'un an.
En tout cas, la centrale va fermer. Jean Rottner, comme les autres élus ou syndicats, se sont fait une raison. Un délégué interministériel pour l'avenir de Fessenheim sera nommé dans les tout prochains jour. Colmar, Célia Kiré, France Inter.
La grippe aviaire de retour dans les Landes, 2700 canards abattus dans un élevage de Meillan. Un virus faiblement pathogène a été détecté. Une info pratique pour les Parisiens qui utilisent le nouveau Vélib. Le mois de janvier sera remboursé aux abonnés à cause de gros retards du nouvel opérateur Smooth & Go qui est pénalisé également d'€1 million. 113 stations sont ouvertes pour l'instant sur les 600 promises.
Carles Puigdemont, prêt à diriger la Catalogne depuis son exil à Bruxelles.
Oui, le président catalan déchu envisage d'être investi à distance puisqu'il est poursuivi en Espagne pour sa tentative avortée d'indépendance et qu'il serait incarcéré s'il rentrait dans le pays. Il est pour l'heure le seul candidat au poste de président de la région. Il a par ailleurs prévu de donner une conférence au Danemark lundi. Ce sera son premier déplacement hors de Belgique. Donald Trump ménage lui son électorat conservateur. Il soutient le rendez-vous annuel des anti-avortements comme Reagan et Bush avant lui. Russie. La traditionnelle marche pour la vie qui a lieu en ce moment à Washington. Grégory Phillips, le président américain vient d'y participer par le biais d'un message.
Oui, un discours d'une dizaine de minutes retransmis via un écran géant depuis la Maison Blanche. Le président s'adresse aux milliers de personnes réunies ici sur le Mall et leur dit « Nous sommes avec vous, je suis avec vous ». Un peu plus tôt, le vice-président Pence avait présenté Donald Trump comme étant le dirigeant américain le plus pro-vie, le plus pro-life de l'histoire du pays. La foule applaudit, dit « Amen ». Les manifestants ont des pancartes qui dénoncent le planning familial. Ils portent des photos de bébés ou de fœtus, des bannières religieuses et parfois la casquette rouge « Make America Great Again ». Les anti-avortements sont venus de tout le pays par bus, Missouri, Pennsylvanie, Iowa. Trump est leur président, même s'il n'a pas toujours été sur cette ligne-là. Il est celui qui s'est engagé à nommer plus de juges conservateurs à la Cour suprême pour limiter au maximum le droit à l'avortement. La Cour suprême, c'est d'ailleurs dans cette direction que les manifestants s'apprêtent à défiler dès que les discours seront terminés.
Grégory Phillips à Washington. L'Europe sera plus forte si je le suis chez moi. Le petit coup de pression d'Angela Merkel au SPD, les sociaux-démocrates qui se prononcent dimanche sur le projet de coalition avec la chancelière allemande. Elle est à Paris ce soir, reçue par Emmanuel Macron et ici au micro de Bertrand Galichet.
Ma ferveur européenne et ma conception d'une Europe forte ne dépendent pas de la décision d'autres partis politiques. Je forme le vœu que le congrès du SPD donne le feu vert à l'ouverture de négociations de coalition. Je vois un large terrain d'entente, notamment en ce qui est de l'engagement européen, et je suis convaincue que cela exige un gouvernement stable. C'est pourquoi je suis optimiste, mais c'est naturellement une décision souveraine des sociaux-démocrates en Allemagne.
L'Allemagne où le trafic des trains a lentement repris, mais le bilan de la tempête Friederike s'est alourdi. 8 morts, 11 au total en Europe du Nord, et des dégâts évalués outre-Rhin à 1,5 milliard d'euros. Et pourquoi pas un pont sur la Manche? Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, en rêve, lui qui est un ardent défenseur du Brexit. D'accord, lui répond Emmanuel Macron, qui était au Royaume-Uni hier. Faisons-le. Il y a 35 kilomètres entre la France et l'Angleterre.
La dernière fois qu'un Français était en finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'était il y a 10 ans. Ça ne vous rajeunit pas, Sébastien Pao?
Non, ça ne nous rajeunit pas. Joe Wilfried Tsonga n'a pas refait le coup de 2008. Aujourd'hui à Melbourne, battu par l'Australien Nick Kyrgios en 4-7. Élimination aussi d'Alizé Cornet. Richard Gasquet affronte Roger Federer demain au troisième tour. De la musique pour terminer. Sortie aujourd'hui du nouvel album des Liminianas que vous avez pu découvrir hier soir en avant-première sur Inter. Cinquième disque du duo français intitulé Shadow People, où l'on retrouve des influences comme le Velvet Underground ou Nick Cave, mais aussi la patte des grands noms de la musique anglaise des années 80, Mathieu Culeron.
Il y a des modes, des punks et une jolie rockabilly.
Pour ce cinquième album, Lionel et Marie se sont replongés dans leur adolescence. Entourés de mods, de punks, c'est aussi la découverte du rock des années 80. Parmi eux, Joy Division ou New Order. Et ça tombe bien, le duo catalan a fait appel à Peter Hook, le fameux bassiste de ces deux groupes de légende, le temps d'un morceau, The Give. Ce nouvel album semble encore convoquer les fantômes du passé. Il faut dire qu'il a été produit par Anton Newcombe, leader agité du groupe Brian Johnston Massacre, l'américain qui leur a carrément proposé de réaliser ce disque chez lui à Berlin et d'apparaître sur un titre « Istanbul is Sleep ». Shadow People est un disque nostalgique où les influences françaises se permettent quelques apparitions. C'est le cas avec les collaborations de Bertrand Belin ou encore d'Emmanuel Seignier, un disque qui synthétise le meilleur de la culture tricolore et anglo-saxonne.
Shadow People, cinquième album des Liminianas, c'est sorti aujourd'hui, Claire, et avant la météo. Un grand merci à Ludovic Asselot et Arnaud Caillet qui étaient toute la semaine aux manettes des journaux de 13, 18 et 19 heures de France Inter.
Et merci à vous, allez, tant qu'on y est. Merci, merci Sébastien Faour. Le temps, c'est tout de suite.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Temps agité demain.
Et oui, dès cette nuit, une nouvelle perturbation active arrive par l'ouest. Alors demain, elle traversera l'ensemble du pays avec des pluies soutenues, plus irrégulières dans l'après-midi sur le nord-ouest. En montagne, on aura de la neige. Ce sera à basse altitude dans l'est, dès 400 mètres pour les Alpes, avec un fort risque d'avalanche. Plutôt 300-400 mètres vers le nord-est, où là les sols pourraient même blanchir entre les Ardennes et le nord de la Lorraine. Seul le sud-est profitera du soleil le matin, mais les nuages s'imposeront pour l'après-midi.
Et le vent se renforcera partout.
Exactement, jusqu'à 90 km à l'heure, plus même en montagne. Il deviendra violent ce vent dans la nuit de samedi à dimanche entre les Alpes et la Corse, donc soyez très prudents. Quelques gelées dans l'est pour demain matin et l'après-midi, seulement 5 à 7 degrés du nord-est jusqu'à Rhône-Alpes, souvent 11 à 14 ailleurs, là c'est doux. Et puis dimanche, de la douceur, de nouvelles pluies. Seules les régions proches de la Méditerranée auront du soleil, mais toujours du vent fort.
Merci beaucoup, Elodie Calac de Météo France.